Bon, c'est un plaisir de partager ce moment de louange, de prière ce matin et regarder et tourner nos regards ensemble vers notre Seigneur Jésus. Vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin et je profite de cette occasion pour vous transmettre les salutations des frères et sœurs aussi de l'église du CEP à Marseille. Ce matin, j'aimerais nous encourager à travers un partage en prenant comme exemple un personnage de l'évangile qui est Jean-Baptiste. Alors, je sais qu'on est proche de Noël. Et donc je remonte un petit peu dans les événements finalement en regardant non pas directement le Seigneur, mais bien sûr on va pointer nos regards à travers Jean-Baptiste sur le Seigneur, mais en regardant un petit peu la vie de Jean-Baptiste et les expériences ou en tout cas une expérience qu'il a dû vivre, une expérience pas facile, celle de laisser la place. Il a dit une phrase, un verset qui est très marquant. Il a dit ceci en Jean 3, et on lira le texte en entier tout à l'heure, verset 30, « Il faut qu'il croisse en parlant du Seigneur Jésus, et moi, je diminue. » Et j'aimerais nous encourager à travers ce verset. Les grands changements dans la perception de nos vies ou de ce que l'on croit depuis très longtemps sont pas toujours des étapes difficiles, pas toujours des étapes faciles à vivre. Les humains en ont vécu plusieurs fois dans la compréhension de l'univers, du monde qui les entoure. À la Renaissance, quand les humains ont dû comprendre que la Terre n'était pas le centre du système solaire, mais c'était quelque chose d'autre, le Soleil qui était effectivement le centre, c'était comme un traumatisme de passer de la vie antique de Ptolémée dans lequel la Terre et qu'habitaient les humains et donc les humains étaient au centre finalement d'un système à quelque chose dans lequel à Copernic dans lequel effectivement le Sénon c'était le Soleil et la Terre était quelque chose de périphérique et qui tournait. C'était un traumatisme pour l'humanité. Et quelque part on vit un petit peu ça dans plusieurs étapes de la vie. Je pense à des étapes clés. Plusieurs d'entre vous ont déjà vécu l'étape de la retraite, dans laquelle il faut laisser la place. Il y a quelque chose, une difficulté là, qui peut être effectivement vécue. C'est vrai à chaque fois qu'on peut faire un relais pour n'importe quelle responsabilité, de quelque chose que l'on avait l'habitude de faire ou de prendre en charge. Et puis à un moment dans la vie, il y a une étape où on doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est jamais quelque chose de facile. Et si on est honnête dans nos cœurs, si on a développé quelques expériences, quelques expertises, c'est jamais facile d'entendre parler quelqu'un qui a un problème auquel on pourrait savoir répondre et sans du coup nous évoquer. Imaginez la scène, même que ça soit au travail ou à l'église ou dans n'importe quel cercle relationnel dans lequel vous êtes, comme si vous étiez derrière une baie vitrée, mais dans lequel les personnes ne vous voient pas. Il y a que vous qui voyez la scène et entendez la scène. Et le groupe qui est là a un problème. Un problème peut-être musical, d'informatique, de je ne sais quel sujet, dans lequel vous êtes l'expert. Vous savez depuis longtemps. Et on parle et on parle. Et jamais on évoque la possibilité que vous pourriez venir rendre service. Le problème est décentré de vous à l'endroit où vous êtes pourtant le plus expert. Et là, des fois, on a des petites blessures dans notre amour propre, dans notre moi. On se dit, mais mince, pourtant, je ne suis plus ou je ne suis pas au centre de cette situation. D'ailleurs, à l'inverse, on a tendance à reconnaître, admirer, le mot est peut-être trop fort, mais que quand des femmes ou des hommes illustres de l'histoire de l'humanité, on fait un pas en arrière volontaire, on peut reconnaître effectivement quelque chose. Waouh, il a su se retirer. Alors, indépendamment de toute leur vie et tout ce qu'on pourrait savoir ou ne pas savoir, évidemment, je pense par exemple à un George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, qui au bout de mandat a dit « Non, stop, il faut absolument passer la main et je dois absolument me retirer. » Les papes de l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont descendu d'une marche. Mais récemment, Benoît XVI en a été une illustration, alors encore indépendamment de toute autre considération, on peut remarquer ce fait de pouvoir, alors bien sûr, pour des raisons multiples et variées, quand la santé ne permet plus effectivement d'avancer. Vous avez un empereur romain qui a su aussi reculer à un moment donné, l'empereur Dioclétien, connu pour la grande persécution contre les chrétiens, qui pourtant dans sa vie à un moment donné a su laisser la place. On dit qu'il a préféré aller jardiner et finit sa vie en cultivant les roses. Alors il y a un débat sur si c'était les roses ou une autre fleur qu'il préférait. Bon, quand on peut visiter son palais de retraite à Split en Croatie, c'est bon, il avait une retraite assez sympathique. Et pourtant, il a su lâcher les rênes du pouvoir, pourtant au plus grand sommet de l'Empire romain. C'est pas de Dioclétien que j'aimerais continuer à parler ce matin, mais bien de Jean-Baptiste, qui lui aussi à un moment a pu savoir descendre de l'estrade pour laisser la place à bien plus grand que lui. Et j'aimerais qu'on lise le passage de l'évangile de Jean 3, versets 22 à 30. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jusque-là, le texte de l'évangile. La vie de Jean n'a pas été très facile. Il a eu une mission qui lui a été confiée, de manière même prophétique, de très long, de préparer le chemin du Seigneur. Jean, c'est cette voix qui crie dans le désert. Si vous criez dans le désert, il est peu probable que beaucoup de gens vous entendent. Et ça souligne une difficulté dans la mission qui vous est confiée. Et c'est un peu un type du prophète de l'Ancien Testament, dans lequel il parle un message clé de la part de Dieu pour le transmettre au peuple. Et pourtant, bien peu écoute réellement. Et Jean avait pourtant cette mission extrêmement difficile. Il y a des aspects qui sont pas très sympas dans cette mission du type du prophète. Et puis Jean, il a toutes les caractéristiques du prophète de l'Ancien Testament. Il a une vie, il mène une vie un peu ascétique. On montre le texte biblique, nous dit qu'il boit pas, qu'il ne mange pas. On a du mal à le voir, on dit qu'il habite dans le désert. Alors je sais pas s'il avait un habitat troglodyte dans le désert de Judée, dans les multiples grottes de la région, mais on le voit pas trop bien installé tranquillement, confortablement dans sa maison. Probablement dans sa vie, il a dû renoncer à une famille, en tout cas on n'en a aucune notion, on ne peut pas spéculer dessus, mais il n'y a aucune mention effectivement de quelque chose qui est une construction finalement de vie en dehors de la mission qui lui est confiée, mission importante, de préparer la voie du Seigneur. Et puis, bon, il a donné la mode à un habit assez inconfortable. On dit qu'il avait des habits en poil de chameau. Il paraît que ça gratte un peu. C'est l'ancêtre de la robe de bure des moines du Moyen-Âge. Donc, effectivement, quelque chose qui s'associe à une mission pas forcément extrêmement sympathique. Pourtant, Jean a eu du succès. Dans ce qui lui avait été confié dans sa vie, dans finalement presque la seule chose qu'il avait pour lui, Jean a eu effectivement du succès. Il y a des signes que plusieurs personnes du peuple, effectivement, ont écouté le message. Le message n'est pas si arrivé dans aucun cœur, dans aucune oreille. Un message de repentance, Jean prêchait ce message de se repentir, de revenir à Dieu, de préparer son cœur à recevoir le Messie, celui qui était attendu pour sauver, pour effectivement régner. Et Jean encourageait effectivement le peuple, et plusieurs personnes de toutes les catégories sociales sont venues effectivement entendre, écouter Jean. Il y avait des foules qui venaient écouter Jean. Et que ça soit des personnes du bas peuple, ou que ça soit des élites de la société, ont entendu parler de Jean. Même des soldats romains, de l'occupant, se sont intéressés à ce message de Jean. Dans les régions où il exerçait son ministère, un des responsables, on va dire, politiques de la région, un certain Hérode. Alors, il y en a beaucoup des Hérodes hein, dans la famille, mais c'est un des petits-fils de Hérode le Grand, de celui qui avait été présent au moment de Noël, au moment de la naissance du Seigneur Jésus, un des petits-fils, effectivement, qui était là, qui était en interaction avec Jean, hein, était intéressé aussi par le message de Jean. Bon, il n'a pas tout écouté, mais il était intéressé aussi par ce message de Jean. Et puis on voit que même géographiquement, son message, il s'est pas limité à la Judée. Incroyable pour quelqu'un du premier siècle, en termes de... Bon, il n'y avait pas YouTube ou autre moyen de communication pour transmettre son message. Et pourtant, on va retrouver quelques années plus tard, jusque à la pointe de la Turquie vers la Grèce, hein, à Éphèse, des gens qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Donc Jean lui a eu du succès. On sait qu'à Apollos aussi, qui venait d'Alexandrie, en Égypte, avait d'abord été un disciple aussi de Jean-Baptiste. Donc un succès, en fait, même international, à l'époque de la part de Jean. En réalité, même... on sait dans l'histoire que des personnes ont continué à écouter cette voix de Jean bien au-delà du Messie. Donc on va dire qu'ils ont quelque peu raté le virage, ou en tout cas une partie du message de Jean, de se tourner vers le Seigneur Jésus. Et on retrouve jusque au temps de l'islam, et encore même aujourd'hui dans quelques groupements de populations, notamment en Irak et quelque peu en Iran également, et dans les réfugiés irakiens, on peut retrouver ce qu'on appelle les Mandéens. Et les Mandéens sont un groupe religieux, effectivement, qui a continué a confondu Jean un petit peu avec le Messie, et s'est mis à adorer Jean comme un dieu. Il y a un écrit apocryphe qui s'appelle Le Grand Trésor, que les Mandéens vénèrent et lisent. Et on a placé Jean-Baptiste même à l'échelle, finalement, d'un Messie, d'un dieu lui-même. On s'est mentionné dans le Coran comme étant aussi les Sabéens. On parle des Juifs, des chrétiens et des Sabéens. Il y a plusieurs historiens associés les Sabéens à ces Mandéens qui vénèrent Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a eu effectivement énormément de succès. Les historiens contemporains, on en a la trace dans Flavius Joseph, qui écrit dans Antiquité juive, il dit ceci à propos de Jean, au chapitre 18. « Ce fut un homme de bien, qui excita les Juifs à pratiquer la vertu, à être justes les uns envers les autres, et pieux envers Dieu pour recevoir le baptême. » Ça, c'est le témoignage de Flavius Joseph. Donc effectivement, Jean a eu du succès, mais la seule chose qu'il a eu pour lui, en termes effectivement de succès, on vient de le lire, eh ben il va laisser la place. Même cette partie, ce seul moi finalement qu'on pouvait avoir de Jean-Baptiste, ben Jean-Baptiste a encouragé ses disciples, ceux qu'il avait écoutés, son succès à lui, finalement à suivre Jésus plutôt que lui-même. Et plusieurs des disciples ont voulu le faire. On sait que dans les disciples de Jésus, André était d'abord un disciple de Jean-Baptiste, et possiblement Jean aussi, duquel on vient de lire l'évangile, hein, était peut-être aussi un disciple de Jean-Baptiste avant d'être un disciple du Seigneur Jésus. Dans le texte biblique qu'on vient de lire, on voit que Jean reconnaît beaucoup de choses. Il reconnaît les limites de la mission, que la mission Dieu lui a confiée. Le texte dit ceci: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Jean pouvait avoir pour lui, il ne le reconnaissait pas par ses propres forces, pas par son propre succès, son propre travail, mais par les dons que Dieu lui avait donnés. Cette mission, c'est Dieu qui lui avait donnée, elle ne lui appartenait pas. Si Dieu à un moment voulait la reprendre ou la donner à quelqu'un d'autre ou la faire avancer pour que lui s'efface, mais il reconnaissait que ce que Dieu lui avait confié, ben c'était juste confié de la part de Dieu. Mais ça ne lui appartenait pas en propre, c'était pas son moi. Et il acceptait que ça soit quelque chose qui soit décalé de lui, décentré de lui, quand Dieu en avait voulu ainsi. Et puis, il reconnaît qu'il n'est pas la personne la plus importante. Sa mission, c'était pas pour se centrer sur lui, mais pour au contraire préparer le cœur pour reconnaître que Jésus était réellement le Messie. Donc, son propre moi, c'était pour pointer du doigt vers plus grand que lui. Et pointer que ses concitoyens, ben, regardent bien plus que lui, regardent réellement le véritable Messie. Et ça, dès que Jésus est au début du ministère du Seigneur Jésus, Jean a pu pointer du doigt. Il a dit, voici l'anneau de Dieu. C'est lui que vous devez regarder. Et Jean a pu le reconnaître dès que le Seigneur a commencé, effectivement, son ministère. Plus fort que ça, quelque chose d'encore plus difficile, Jean a éprouvé de la joie. Et ça, c'est un signe du cœur, un fruit de l'esprit, qui montre que c'est pas à contre-cœur que Jean juste a laissé la place. Il était convaincu que c'était la bonne chose, que c'était la volonté de Dieu, que c'était le mieux. Il nous montre une image d'un ami du marié. Effectivement, l'ami du marié qui peut-être aide à préparer la cérémonie, hein. Ben, quand le président de la cérémonie de mariage fait entrer les mariés, les montrés, il pointe pas vers lui-même, il va montrer, ben, le marié, les mariés qui sont là, qui vont traverser la salle, et tout le monde va regarder, pointer ses regards vers les mariés qui sont là, et décentrer vers celui qui a peut-être introduit la cérémonie et qui est là. Et il le fait avec grande joie, pas pincement de cœur. Et c'est quelque chose d'extrêmement, effectivement, difficile. Des fois, on peut le faire un peu en boudant. Hein. Les transmissions de relais dans la réalité, c'est que des fois, super, prenez les jeunes la place, là, etc. Mais au fond, on boude un tout petit peu. On verra, ils se débrouilleront. Mais il y a une petite pincement, en fait, qui est là. Contraire du fruit de la joie qui peut être effectivement dans le cœur, et que Jean-Baptiste, effectivement, exprime. J'ai éprouvé une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne, est parfaite. Et puis, il poursuit avec ce verset. Il faut qu'il croisse, en parlant de Jésus, et que moi je diminue. Grammaticalement, il y a quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas deux verbes croître et diminuer ne sont pas deux verbes qui sont conjugués de la même façon et de manière symétrique dans la phrase. Le verbe croire, il faut qu'il croisse, est un présent continu progressif, c'est-à-dire quelque chose qui est quelque chose qui va progressivement prendre une place de croissance. C'est du présent. Jésus doit prendre une place de plus en plus grande. Quelque chose d'actif. Qu'il diminue, c'est un passif. En fait, on pourrait traduire qu'en même temps, moi, je sois diminué. Qu'il croisse petit à petit, qu'il prenne petit à petit une place de plus en plus grande. Et que moi, en regard de ça, parce qu'il croit, je sois passivement, finalement, diminué. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette dissymétrie du verbe. Parce que quand le Seigneur demande à qu'il prenne la plus grande place dans notre cœur, c'est pas pour qu'on soit totalement effacé ou parce qu'on a une anomalie, on est juste le problème. Non, c'est parce que c'est le Seigneur qui est grand. Et en réalité, notre grandeur, notre gloire ne peut être vraie uniquement devant Dieu que parce que le Seigneur Jésus prendra de plus en plus de place dans notre esprit et dans notre cœur. C'est parce que le Seigneur doit prendre la place, parce qu'il est le plus grand, parce qu'il est lui le Seigneur, à ce moment-là qu'il faut apprendre, avec joie, à reculer notre moi. Plus tard, quelques mois plus tard, ou une année, je ne sais pas exactement situer, le Seigneur Jésus parlera à nouveau, parlera de lui, de Jean-Baptiste. Lorsque Dieu aura décidé de retirer Jean-Baptiste de cette terre, terminer effectivement concrètement sa mission, le Seigneur témoignera de Jean-Baptiste comme celui qui avait été le plus grand des prophètes. Il dit ceci, « Il n'est pas né sous le ciel de personne née de femme plus grand que Jean-Baptiste. » C'est intéressant de réfléchir à pourquoi le Seigneur dit ça. Qu'est-ce qui fait dans Jean-Baptiste que Jean-Baptiste soit qualifié par le Seigneur Jésus de personne née de femme, qu'il n'y a pas eu sous le ciel de personne née de femme plus grand que Jean-Baptiste. Certainement pas son mode de vie d'ascète, ou de avoir plus particulièrement respecté les commandements que quelqu'un d'autre. Jean ne buvait pas et ne mangeait pas, on comprend en excès. Le Seigneur Jésus est venu en buvant et en mangeant. C'est pas ça le critère, un critère ou moral ou de pratique qui fait que Jean-Baptiste aurait été effectivement le plus grand. Il y a quelque chose sans doute relié à travers sa mission, mais c'est pas juste le fait qu'il soit un prophète. Il y a eu des tas de grands prophètes avant Jean-Baptiste, et vous savez, de dire sur la mission prophétique juste qu'un Moïse, un Élie ou un Élisée n'est pas aussi des caractères qui auraient pu être qualifiés par le Seigneur effectivement de encore plus grand. Pourtant, effectivement, il y a quelque chose en lien avec le Seigneur Jésus lui-même. Et un lien avec le fait d'avoir une vision de la grandeur de qui est le Seigneur Jésus. L'indice qui nous fait comprendre pourquoi le Seigneur a dit ça, que Jean était le plus grand, c'est le verset suivant qui dit ceci, « Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. » Et ça nous donne un indice. Parce que si le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste, du coup, on le comprend temporellement, au moment où le Seigneur Jésus, dans son ministère, va le dire, était le plus grand, c'est qu'il y a un lien très étroit avec la connaissance du Seigneur Jésus et la compréhension de qui est profondément le Seigneur Jésus. Parmi tous les prophètes, Jean-Baptiste est celui qui a touché du doigt, qui était le plus précisément Jésus-Christ réellement. Non seulement un Messie en espérance, mais un Messie devant ses yeux, il a pu le toucher, le voir. De ses propres yeux, il a vu effectivement le Messie. Il est le dernier de ces prophètes de l'Ancien Testament. Et celui qui a touché de plus près la grandeur de qui était réellement le Seigneur Jésus. Et donc, dans ses yeux, de pouvoir élever dans son cœur la grandeur du Seigneur Jésus. Et le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a pu contempler plus que Jean-Baptiste, qui était encore plus le Seigneur Jésus. Dieu a permis que Jean soit enlevé de cette terre avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il n'a pas pu contempler, comprendre et voir ce mystère de Dieu, de la réalisation de l'œuvre du salut. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, de Dieu, que l'on comprenne le royaume comme quelque chose qui se débarre effectivement à la résurrection du Seigneur ou qui s'accomplit et qui s'accomplit complètement encore dans le futur, effectivement, dans le royaume accompli de Dieu. Et quelqu'un, comme beaucoup parmi nous, qui ont pu contempler et qui peuvent contempler l'œuvre du Seigneur Jésus complète à la croix et comprendre encore plus que Jean-Baptiste qui est réellement le Seigneur Jésus, celui qui est Dieu lui-même, qui est venu accepter de venir prendre nos péchés à la croix, mourir pour nos fautes, ressusciter en gloire, montrant que Dieu avait accepté ce sacrifice et permettre d'être un moyen, on l'a dit ce matin, de porte, de berger, qui peut nous conduire effectivement au Père. Et en cela, effectivement, on peut voir dans une description de Christ quelque chose d'encore plus grand. Ça veut dire tout ça, ça montre que la grandeur, et la grandeur même que l'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, la grandeur, être grand pour nous, ça vient d'une vision profonde de qui est Jésus. Et en contraste, effectivement, notre vie, effectivement, il y a des choses, une vision de nous-mêmes qui peut effectivement diminuer. On peut être grand aux yeux de Dieu quand, effectivement, notre moi s'efface, parce qu'on est en train de contempler quelle est la grandeur de Dieu, quelle est la grandeur de notre Seigneur Jésus. Il faut que Jésus croisse dans notre cœur, même si cela nous fait diminuer. Mais c'est ainsi que nous serons élevés ou relevés effectivement par Dieu. Il y a beaucoup d'applications très concrètes à cette vérité qui est là que nous montre effectivement Jean-Baptiste. C'est reconnaître d'abord notre problème de moi. Il y a quelques mois, dans un événement d'évangélisation qu'on a fait sur Marseille au printemps dernier, lors d'une un petit spectacle qui avait préparé, il y a des jeunes qui avaient préparé une scène dont la seule parole du sketch de la scène de théâtre était moi. La scène racontait la vie d'un jeune couple, ou d'une personne effectivement qui rencontrait dans sa vie sa future épouse, et puis qui allait construire sa vie, ils allaient avoir un enfant ensemble, et puis la suite de la vie allait être un petit peu compliqué. Et notamment un petit peu compliqué parce qu'en fait la seule parole c'était moi. Moi quand j'étais célibataire, moi. Et puis moi en fait même que je rencontrais mon conjoint, il y avait beaucoup de bonheur, mais un bonheur pour moi. Et puis j'avais un enfant en couple, mais c'était encore moi. Et puis quand la vie continuait, malheureusement le moi faisait des distensions dans le couple. Et le couple s'est séparé parce que moi. Et puis la personne se rendait compte que, en vieillissant, en avançant dans la vie, il y avait une petite amertume dans le moi. Et jusqu'à un moment où, brisée dans les difficultés et les souffrances de la vie, la personne, en fin de sketch, brisait le genou, se mettait en genou, et une petite nuance dans la dernière parole du sketch, en regardant vers le ciel, enfin la personne passait du moi à toi. À toi en regardant vers Dieu. Et il faut reconnaître que dans nos vies, on a tous, plus ou moins, mais un petit problème effectivement de moi. Et en faisant rentrer le Seigneur Jésus dans notre vie, parfois, il faut reconnaître que on a tendance à faire venir Jésus dans aussi nos projets, juste dans notre programme, dans notre moi du programme, en demandant au Seigneur de venir bénir tout ça, de venir faciliter tout ça, de venir glorifier tout ça. Mais en réalité, en faisant ça, on est encore en train de faire un petit moi. Seigneur, fais grandir le moi. Et des fois, nos prières sont un petit peu comme ça. Permets que moi réussisse, que moi soit bien, soit béni, etc. Attention, en disant cela, je ne veux pas minimiser combien nous avons besoin de notre Seigneur Jésus dans notre vie et dans nos difficultés. En passant par des épreuves de souffrance, de difficultés, oh combien il est légitime de s'adresser au Seigneur pour venir nous aider dans effectivement le moi de nos difficultés et de nos souffrances. Je ne veux absolument pas minimiser combien nous avons besoin du Seigneur dans chacune des étapes, des difficultés de notre vie. Mais que parfois, il est bon de reconnaître que l'on a besoin de regarder et décentrer nos vies dans un programme, dans des projets qui sont du toi, qui sont ceux du Seigneur. Et faire non pas rentrer Dieu uniquement dans le Seigneur, dans notre vie de programmer, mais Seigneur, dans quelle vie tu veux que je rentre? Dans quel est ton programme pour ma vie? Et de décentrer de notre programme, notre vie, pour rentrer dans le programme de Dieu, certes, pour nous, mais pour la gloire de notre Seigneur. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, parce que ça veut dire parler de renoncement. Mais c'est ça ce dont on parle, de descendre de l'estrade, de faire un pas en arrière, de pour que je diminue, que tu croisses, que tu croisses et que je diminue. C'est bien ça. C'est pour que, non pas nous allions précipitamment être retirés de cette terre, que la volonté de Dieu soit faite, au moment où il le souhaitera, mais que notre vie rentre effectivement dans le programme du Seigneur. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est que lui grandisse, effectivement, que son programme, effectivement, se fasse. En réalité, c'est même le meilleur pour nous. C'est le meilleur programme aussi pour le moi, en réalité. Parce que c'est le programme le plus bon, le meilleur, parce que c'est celui, effectivement, du Seigneur. C'est une question de priorité, finalement, dans la vie. Ça peut s'appliquer pour notre témoignage. Quand l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile », c'est bien en reculant, en faisant reculer, effectivement, son propre ego. Il a perdu beaucoup de choses en devenant croyant, en devenant chrétien, en suivant Jésus-Christ. Il était bien vu dans la société, il était bien placé, il avait fait les super études, il était même promis à de grands postes, sans doute, l'apôtre Paul. Il a beaucoup renoncé pour suivre le Seigneur Jésus. Et il n'a pas eu honte de l'Évangile. Pourtant, scandale pour les personnes et pour ses contemporains. Et c'est pas si évident, dans notre propre témoignage, à différentes occasions très concrètes, de prendre la parole, de effectivement de donner notre propre témoignage, de pas avoir honte de l'Évangile. Mais à chaque fois qu'on le fait pour le Seigneur, on fait grandir le Seigneur et on fait reculer effectivement notre propre moi. On prend des risques, peut-être d'être mal vu, peut-être qu'on se moque de nous. Effectivement, le monde n'est pas prêt à tous recevoir et les cœurs sont encore bien durs et bien endurcis. Et est-ce qu'on est prêt à recevoir un peu d'opprobre pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Mais finalement, c'est tout ça qui est en jeu. Ce Seigneur qui grandit et nous qui diminuons dans cet enjeu, effectivement, du courage, du témoignage. Jean-Baptiste a eu le courage jusqu'au bout. Et il a osé dire, effectivement, pourtant à des responsables, à Hérode, à Hérode Antipas, c'est bien parce qu'il lui a, au nom de Dieu, recommandé, effectivement, de changer dans sa vie et de renoncer à certains mauvais choix qui étaient contre la gloire de Dieu, et finalement que ça s'est mal passé, finalement. Il aura payé quelques mois plus tard de sa vie, selon un petit peu la tradition, le palais forteresse de Macéronte, dans lequel il sera enfermé quelques mois plus tard, pour avoir osé mettre en avant la gloire du Seigneur plutôt que son propre moi. Mais on peut appliquer aussi ses priorités et ses renoncements pour notre question de gestion de nos finances, de gestion de notre temps, qui effectivement, là aussi, sont toujours en balance avec le moi ou la gloire de notre Seigneur Jésus. Apprendre à renoncer pour l'amour du Christ est un signe que c'est le Seigneur, par son esprit, qui peut travailler dans nos cœurs, c'est le signe de la joie. Pas un renoncement avec amertume ou une blessure au fond de notre cœur, mais au contraire, quand la gloire du Seigneur peut grandir dans notre cœur ou dans notre esprit, que la joie soit ce signe de témoignage qu'il y a quelque chose du Seigneur, de l'Esprit qui travaille en nous et qui effectivement est là et nous transforme. Et je veux m'encourager en premier dans cet exercice spirituel et vous encourager ce matin, dans cette période de Noël, à regarder effectivement le Seigneur en le faisant grandir dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos projets en fait. Enfin, souvent les fins d'année, alors on n'est pas le 1er janvier, le dimanche du 1er janvier, mais les bonnes résolutions, les changements de l'année, effectivement, sont toujours des moments où c'est bon de se poser, de prendre un temps de pause pour ceux peut-être qui ont plus de vacances que d'habitude, dans ce temps effectivement particulier de Noël, de pouvoir poser nos vies, de faire comme un petit check-up de bilan, là. Seigneur, honnêtement, devant toi, c'est où que je mets trop mon moi et que je t'ai oublié effectivement dans mes projets. Seigneur, par ton esprit, travaille mon cœur que je recentre ma vie pour te faire grandir et moi diminuer. C'est pas une injonction de morale. C'est pas parce que il faut faire comme ça, vous serez un bon chrétien en faisant ça. C'est pas une question de morale. C'est une question de gloire du Seigneur, d'avoir foi dans le Seigneur que donner la priorité du Seigneur dans nos vies, c'est le meilleur et de loin. Et c'est ce qui donnera le plus de joie, au fond, de joie réelle, sincère, stable, qui ne sera pas volée par les circonstances et les mauvaises circonstances du chemin et de la vie. Et ça vaut le coup, de temps en temps, effectivement, de regarder où on se situe, là, dans notre vie. Et finalement, pour conclure, c'est un peu passer de Ptolémée à Copernic. C'est de passer de cette vision où tout tourne autour de nous, à une vision où on décentre nos vies et le soleil est pas nous. On peut être éclairé par le soleil, mais le soleil, c'est pas nous. Alors en plus, nous n'adorons pas le soleil comme plusieurs sur cette terre dans l'histoire ont pu adorer, que ça soit égyptien ou aztèque. Nous adorons encore plus grand que le soleil, le créateur du soleil. Que le Seigneur soit le centre de nos vies. Qu'on soit encouragé par le Seigneur. J'aimerais prier. Seigneur, ce matin, on veut s'adresser à toi en te contemplant pour qui tu es vraiment. Jean-Baptiste avait pu le voir de ses yeux, il avait pu reconnaître, inspiré par ton esprit, que tu étais toi, que tu étais l'anneau de Dieu, tu étais le Messie, tu étais celui qui était le plus grand, Seigneur. Tu étais toi, Dieu lui-même, Seigneur. Et on veut que nos cœurs le reconnaissent, Seigneur. Et on veut l'appliquer à nos vies. Seigneur, pas un chemin dans lequel on sait partout, dans notre esprit et dans notre cœur, notre chemin de vie de moi, finalement en faisant si peu cas de qui tu es, Seigneur, mais au contraire, rentrer dans le programme que tu as prévu pour nous, Seigneur, et pour ta gloire. Que tu prennes la priorité dans nos vies et que, avec joie, par le travail de ton esprit, tu puisses nous faire diminuer, nous faire décentrer pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.